Santé, économie, culture, politique, environnement. Votre premier contact avec l'actualité. Déterminé, enraciné, ancré. Philippe-Vincent Foisy.
Jeudi 2 février. Bienvenue à Cube Radio. J'espère que vous allez bien ce matin. J'espère que vous allez passer une belle journée. Jour de la marmotte aujourd'hui. Pas sûr que la marmotte va sortir son nez du côté du Québec. Mais bon, on va regarder ce qui va se passer du côté des États-Unis. Est-ce que le printemps sera hâtif? Est-ce que l'hiver sera plus long? Y ce matin dans le Journal de Montréal, une bonne caricature où on voit les marmottes Dubé, Drainville et Fitzgibbon, les trois ministres qui disent « Oui, 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 ça va bien aller dans nos ministères respectifs, les trois marmottes, espérons. » Je sais pas s'il faut qu'ils voient leur ombre ou qu'ils la voient pas, là. Espérons que de ce côté-là aussi, ça va bien aller. On parle aussi de ce vortex polaire parce que dans les prochaines heures, il y a un avertissement de froid extrême, là. Selon l'Environnement Canada a émis ces froids extrêmes, là. Ce sont les mots qui sont employés pas pour faire ici là, des médias puis de l'enflure, là. C'est froid extrême, c'est ce que Environnement Canada dit et utilise comme mot. Puis on le comprend un peu mieux, comment ça fonctionne ce phénomène-là dans le Journal de Montréal en 5 minutes. Comme un vortex polaire au-dessus du pôle Nord. Normalement, ça reste au-dessus du pôle Nord. L'air très, 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 très froid. Mais là, comme l'air dans le reste de la planète se réchauffe, on déstabilise le vortex polaire et là, descend, vient sur le courant jet qui lui aussi est déstabilisé avec le réchauffement climatique et ça fait en sorte qu'on a ces froids qui arrivent ici comme ça, où on devrait avoir des valeurs de refroidissement éolien durant la fin de semaine, samedi là, principalement, entre moins 38 et moins 42 dans la grande région de Montréal. Si vous allez plus au nord, Saguenay, j'ai entendu de moins 50 possiblement ressenti avec le vent. Pas chaud pour la pompe à l'eau, comme dirait mon oncle. C'est aussi frette pour les engelures. Puis c'est aussi préoccupant pour ceux et celles qui sont en ce moment en situation d'itinérance. En ce moment, il y a une population vulnérable, importante, qui n'a pas de place pour trouver un refuge, principalement à Montréal. On l'a déjà dit depuis le début, même cet automne, on disait les refuges débordent. Il y a un manque de ressources, il manque de monde aussi. On a des navettes pour essayer de transporter ces gens-là dans des refuges plus loin, dans d'autres quartiers, mais même ceux-là sont souvent débordés. Là, ben c'est sûr que quand on voit des températures comme celle-là, la crainte, c'est espérons qu'il n'y ait pas un mort. Sincèrement. Parce que passer une nuit dehors à moins 40, moins 45 avec le vent, c'est très, très dangereux. Puis la vigilance des gens va être importante. Si vous promenez la nuit, si vous promenez dehors, voyez quelqu'un dehors, n'hésitez pas à demander de l'aide. Appeler des ressources, parce que ce froid-là va être violent. Et ce qui est hallucinant dans le dossier de l'itinérance, c'est de voir que, en ce moment, notamment dans le centre-sud, là, il y a un beau bâtiment, l'accueil Bonneau. On a dû le fermer en 2019, il y avait des problèmes de salubrité, puis depuis, on l'a laissé à l'abandon. Fait que plus on attend, plus ça va coûter cher. Mais la ville a refusé de mettre de l'argent du fédéral dans le projet. Elle dit, ben regardez, on a mis l'argent, est allé ailleurs, je sais pas où. Là. C'est pas écrit, la ville ne dit pas. C'est juste que t'as un bâtiment ici avec 30 studios en décrépitude. 30, là, c'est quand même pas mal. Là. Manque de lits partout. Puis là, on aurait pu, dans un quartier qui a énormément de besoins, le rénover. Cet argent est allé où? Sinon, c'est pas clair. Mais à un moment donné, je comprends que la ville, disons, doit faire des choix, mais faites-les clairement aussi, mais faites les bons choix. Ultimement, c'est ça la vraie question. Parce que le gros risque pour Valérie Plante et son administration en ce moment, c'est que ces deux mandats soient marqués par l'échec. Là. Il y a l'enjeu des poubelles, on en parle la semaine dernière, l'enjeu de la plomberie, de l'eau. On pourrait dire les pistes cyclables, bravo, c'est réglé, c'est beau. Mais à part ça, là, ton niveau des réussites de la ville, là, je serais curieux. Peut-être qu'on le voit mal, là, mais écrivez-nous, studio@cube.radio. Si vous voyez autre, à part les pistes cyclables, je pense qu'on peut le cocher, pour les cyclistes, pour les citoyens, ça n'a pas toujours été fait adéquatement, mais en même temps, je pense qu'il y en a beaucoup à Montréal qui disent tant mieux, qui vont dire tant mieux s'il y en a, tant mieux si ce sont des pistes cyclables sécuritaires. À part ça, là, logement, Même l'environnement, la sécurité. Écrivez-nous si vous voyez d'autres d'autres dossiers qui, lui, s'y est bien en ce moment. Sinon, une histoire qui s'invente pas sur le réseau de la santé québécois. Il y a un Ukrainien qui est installé au Québec depuis 30 ans, qui a dû retourner en Ukraine pour trouver des réponses à un problème de santé. Parce qu'il dit en ce moment, là, ici au Québec, c'est toujours le bordel. Pas de médecin, il va prendre des rendez-vous, rapido presto, 10 minutes, bing bang, pas de suivi, difficile de savoir exactement quelle est sa condition. Il décide d'aller en Ukraine. Un, parce que ça coûte beaucoup moins cher les cliniques privées. Deux, c'est beaucoup plus facile. Juste se rappeler que l'Ukraine est en guerre, là. Qui était retourné dans un pays en guerre pour essayer de se faire soigner. Ça a été beaucoup plus vite. Ils n'ont pas trouvé c'était quoi sa condition, mais quand même, beaucoup plus adéquat et beaucoup moins cher dans un pays en pleine guerre que de le faire au Québec. Genre d'histoire-là, tu te dis, ouais, j'aurais aimé ça l'inventer quasiment, puis vous m'auriez pas cru, là. Mais ce matin, dans le journal, c'est ce qu'on lit. C'est un dossier qui a fait réagir beaucoup, beaucoup de monde. Un avis de rappel pour des chandails de la marque Helly Hansen. Vous êtes des sportifs, vous avez sûrement un coton ouaté, un chandail. Et ce sont des chandails en coton. Chandails en coton brossé, ils ont subi un traitement spécifique. Le gouvernement fédéral, l'agence du gouvernement fédéral qui gère ça, dit arrêter immédiatement d'utiliser le produit, communiquer avec la compagnie pour une note de crédit. Le problème, il y a un risque que les chandails pognent en feu. Comme un traitement dans le produit qui fait en sorte qu'il y a un risque que ces chandails-là prennent en feu. Si vous voulez aller voir la liste, là, voir si vos chandails sont là-dessus, rendez-vous sur le site de TVA Nouvelles. On a fait vraiment, vraiment toute la liste. Ça inclut les chandails en coton biologique, ça inclut les chandails en coton à fermeture éclair, avec les imprimés Helly Hansen. Donc, allez voir ça, parce que c'est quand même une méchante grosse liste de chandails. Bon, mais ça va coûter à la compagnie, là, mais surtout comment ça se fait que la compagnie a laissé ça passer. C'est surtout ça. C'est une compagnie quand même crédible. C'est pas une petite compagnie de broche à foin. Peut-être avoir un petit examen de conscience à faire de ce côté-là. Sinon, parlons d'éducation. Vous savez comment c'est le bordel en éducation dans le réseau. Bon, comme on en ajoute une couche, il manque tellement de monde que du côté du Centre de services scolaires de Montréal, on ouvre des postes en adaptation scolaire, mais avec des élèves non qualifiés, avec des enseignants non qualifiés. On dit, on a besoin tellement de monde en ce moment que si vous n'êtes pas qualifié, c'est pas la fin du monde. Puis pour gérer des enfants en situation de difficulté, handicap, des difficultés d'apprentissage. Quand tu dis, ben, t'aimes-tu mieux avoir ça que personne? Ou est-ce qu'on est comme constamment en train de niveler vers le bas, ce qui est aussi la crainte? Parce qu'en bout de ligne, c'est qui paye? Ben, c'est les jeunes. C'est les jeunes qui ont de la difficulté, c'est les jeunes dans les classes ordinaires où, en ce moment, il y a personne pour aider ces jeunes en difficulté qui se retrouvent dans les classes ordinaires. Autre problème dans les classes, je mets ordinaire entre guillemets, là, je dis régulière, sont les élèves allophones qui sont en hausse constante et les établissements scolaires répondent pas à la demande. Faut attendre des mois, des fois, pour avoir des cours de francisation. Fait que tu prends, mettons, réfugié ukrainien, 7-8 ans, parle pas français, parle un peu anglais. Même tu le mets dans une classe francophone régulière. Il comprend pas un mot. Là. Il y a même pas de transition qui sont faites. Puis après ça, le prof doit utiliser du Google Translate, des mots en anglais pour donner certaines consignes alors que l'autre comprend pas du tout. On peut comprendre que les profs soient à bout, là. Ils sont pas formés pour ça. Déjà que c'est compliqué de gérer des cas compliqués, des cas difficiles. En plus, on leur ajoute ce fardeau-là devant des élèves qui comprennent pas le français. À un moment donné, faut qu'on s'aide, là. Faut s'aider si on veut que le réseau fonctionne comme il faut. Puis quand on regarde ce genre de situation-là, tu te dis, ça, vraiment, mais vraiment, vraiment, mais vraiment pas de bon sens. Sinon, petite nouvelle en terminant. Le nombre de cerfs, de chevreuils abattus cette année par la chasse, élevé à 55 000. Ça n'inclut pas ceux qui ont été tués à l'île d'Anticosti. J'ai un petit rappel, donc, aux manifestants de Longueuil. La trentaine, quarantaine, cinquantaine de cerfs dans le parc Michel Chartrand. C'est un faible pourcentage par rapport à tous ceux qui sont abattus chaque année. Sinon, le pétrole. On a appris qu'il y a des millions de dollars de nos taxes et impôts qui sont versés à des grandes entreprises polluantes, notamment une pétrolière, Suncor, très prospère, compagnie albertaine, 3,2 millions de dollars pour évaluer les machins de changement climatique puis réduire les émissions de gaz à effet de serre. La taxe carbone fonctionne presque pas. Là, notre bourse du carbone, puisqu'en bout de ligne, ils payent presque rien la tonne. En plus, on va leur donner de l'argent, de subventions, alors qu'elles ne réduisent pas leurs émissions de gaz à effet de serre. Et en plus, ces compagnies-là font des profits records. Hier, on parlait d'ExxonMobil. Ils avaient fait quoi? Des profits de 55 milliards de dollars. Et là, on apprend dans les dernières minutes que Shell fait des profits qui ont presque doublé. 40 milliards de dollars américains. À peu près en canadien, on est autour de ça aussi, une cinquantaine, soixantaine de milliards. Ça a doublé. Fait que tu sais, quand ces compagnies-là viennent nous dire, ah, vous savez, l'inflation, le coût du prix du pétrole, il y a une grosse partie de cette inflation-là qui est allée dans les poches des actionnaires. Et je peux comprendre qu'on soit écœuré, surtout quand on donne de l'argent pour les aider après ça.